PAP, site immobilier de particulier à particulier présente.
Sud Radio, on parle immo.
Votre rendez-vous 100% immobilier sur Sud Radio avec Marc Ezrati. Bonjour à vous Marc.
Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous.
On démarre cette émission avec le journal de l'immobilier.
Sud Radio, on parle immo, le journal.
Avec gardienrecrute.com, le site de recrutement 100% gratuit dédié aux gardiens et employés d'immeubles.
Et on commence avec l'initiative originale d'un jeune couple qui cherche à acheter une maison en Bretagne, Marc.
Un jeune couple qui n'arrivait pas à trouver la maison de ses rêves malgré une enveloppe de 280 000 euros a décidé de distribuer dans les boîtes aux lettres des 6 000 habitants de Séné, c'est dans le Morbihan.
Voilà. Tract.
Exactement. Ils veulent, en fait, leur proposant de leur vendre leur maison plutôt qu'à des citadins qui rechercheraient des résidences secondaires.
Ah oui, effectivement, c'est original. On poursuit avec un locataire qui a été condamné pour avoir copieusement insulté ses voisins. C'est bien fait.
4 mois de prison ferme, hein, c'est pas rien pour un locataire normand qui a passé de nombreux mois à pourrir la vie des habitants de son immeuble et de son quartier. Insultes, dégradations en tout genre, hurlements en pleine nuit, musique à fond. Le locataire ne manquait visiblement pas de ressources pour mener à vie dure à ses voisins.
Et un voisin charmant. On finit avec l'annonce que vous avez sélectionnée cette semaine chez notre partenaire Gardien Recrute.
Et cette semaine, c'est un bailleur social qui recherche un gardien ou une gardienne d'immeuble pour un poste basé à Ris-Orangis et dans le département de l'Essonne. Autonome et organisé, vous aurez en charge, entre autres, des relations avec les locataires et de l'entretien des parties communes. La rémunération reste à déterminer par rapport à l'expérience. Un logement de 4 pièces est prévu. On retrouve, comme d'habitude, cette annonce sur gardienrecrute.com.
Allez, on parle immo, votre rendez-vous 100% immobilier jusqu'à 10h dans quelques minutes. On va parler des passoires thermiques. Ça vous concerne peut-être, mais avant ça, c'est l'instant réno avec Céline Chaille.
Bonjour Céline Chaillie, rédactrice en chef à Maison et Travaux.
Bonjour Marc, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler budget travaux. Je vous propose de lever le voile sur une aide financière très intéressante pour les particuliers qui engagent des travaux de rénovation énergétique dans leur logement, l'éco-PTZ. Et pour en parler, nous accueillons Katia Léal. Bonjour Katia.
Bonjour Céline.
Vous êtes responsable communication Mon Expert Rénovation Énergie. Alors Katia, comment fonctionne cette aide, l'éco-PTZ, et qui peut en bénéficier ?
Eh bien Céline, l'éco-PTZ, c'est l'éco-prêt à taux zéro. Son nom donne déjà quelques indices sur ce qu'il est. Premier indice, c'est un prêt. Vous l'aurez compris, c'est donc un emprunt bancaire traditionnel, mais dédié à la rénovation énergétique de son logement. Sa particularité est qu'il est à taux zéro pour l'emprunteur. C'est l'État qui va prendre en charge les intérêts. Le montant maximal prêté est compris entre 7 000 et 30 000 euros en fonction des travaux souhaités. Par exemple, vous souhaitez installer des fenêtres à double vitrage, Céline. Vous pouvez emprunter jusqu'à 7 000 euros. Pour d'autres travaux, comme par exemple le changement de votre équipement de chauffage, vous pouvez emprunter jusqu'à 15 000 euros. Maintenant, si vous souhaitez réaliser plusieurs travaux à la fois, l'emprunt est plus important, bien entendu. Deux projets, vous pouvez emprunter jusqu'à 25 000 euros et 30 000 euros pour la réalisation de 3 travaux ou voire même une rénovation globale. Pour l'obtenir, il faut respecter quelques conditions. Vous devez être propriétaire d'un logement de plus de 2 ans et résider en France. Pour finir, les travaux doivent être effectués par un artisan RGE. L'obtention d'un éco-prêt à taux zéro, comme tout prêt bancaire classique, est conditionnée à son acceptation par une banque partenaire. Vous avez ensuite 3 ans à compter de l'offre de prêt pour effectuer les travaux. Sa durée maximale de remboursement est de 15 ans. Le bonus, l'éco-PTZ se cumule à d'autres aides comme la prime énergie ou ma prime rénov. Il n'y a plus qu'à rénover alors.
Merci Katia. Marc, on termine avec une petite info et je voulais vous faire découvrir une application, une nouvelle application qui s'appelle Switch, S-W-O-U-I-T-C-H. Et alors, elle permet aux particuliers de troquer des meubles ou des objets entre eux, le tout gratuitement. Donc par exemple, moi j'ai un vase à troquer.
Par exemple. Et moi j'ai une petite boîte à malice, pareil à brun, enfin à plein de choses.
Voilà, et ben nous échangeons ensemble notre vase contre votre petite boîte à malice. Voilà, je sens que je fais une bonne affaire. Voilà.
Merci Céline Chahi et à la semaine prochaine. Merci également à vous Katia Léal.
Et si vous voulez qu'on fasse du troc, on va en faire, hein, Marc Ezrati. On est ensemble jusqu'à 10h. On va parler des passoires thermiques. Tiens, comment je sais que j'habite dans une passoire thermique, Marc Ezrati ?
Eh bien, parce que vous avez un DPE qui vous donne une classification en F ou en G.
En F ou en G, c'est les couleurs qui sont les moins vertes, hein, j'imagine. Restez avec nous, les amis, on en parle avec Corinne Joly de particulier à particulier dans un instant.
Sud Radio, le Mac de l'Immo, décryptage et tendance de l'immobilier.
Avec mon expert Rénovation Énergie.
Votre rendez-vous 100% immobilier. On parle des passoires thermiques avec Marc Ezrati jusqu'à 10h. Tout de suite, on attaque le Mac de la semaine avec vous, Marc.
Oui, bonjour Corinne Joly, présidente de Particulier à Particulier, PAP.fr.
Bonjour.
Et bonjour à vous, Michel Leschenault.
Bonjour Marc, comment ça va?
Ça va très bien, rédacteur en chef à Se Loger. Alors on commence avec vous Michel, combien on compte de passoires thermiques en France?
Eh bien écoutez, d'après le ministère du Logement, les passoires énergétiques représentent en 2021 4,8 millions de logements en France, soit près de 17% du parc immobilier national. Alors, un logement, c'est quand même énorme. Hein. Et alors, un logement est considéré comme passoire énergétique lorsqu'il obtient la lettre F ou G lors du diagnostic de performance énergétique, le fameux DPE. Alors, si on rentre un peu plus dans les chiffres, en France, il y a 600 000 logements classés G, 1 million de logements classés F et 2,6 millions de logements classés E. Ces logements sont principalement occupés par des ménages modestes, voire très modestes. Ils affichent une consommation supérieure, écoutez bien mon cher Marc, à 330 kWh par mètre carré par an. Et puis je vais terminer parce qu'il faut aussi signaler qu'à partir de 2025, les logements classés G ne pourront plus être loués. Et en 2028, ce sera au tour des biens classés F d'être persona ingrata.
Alors Michel, plus précisément, quelles sont les villes qui comptent le plus de passoires thermiques dans notre pays?
Dans notre pays, eh bien écoutez Marc, sachant qu'une passoire thermique est un logement dont la consommation de chauffage ou de climatisation est excessive, nous avons étudié la consommation énergétique de 1069 villes, y compris les arrondissements de Paris, Lyon, Marseille, pour toute l'année 2021. Alors avant de vous dévoiler notre top 5, je vous donne à titre de comparaison la moyenne de la consommation énergétique nationale. Elle est de 196 kWh par mètre carré par an. Alors, maintenant c'est parti, roulant de tambour, dans la catégorie des villes qui consomment le plus en France, nous avons en première position le 4e arrondissement de Paris avec 299 kWh par mètre carré par an. Et puis après nous avons Chalette-sur-Loing avec 291 kWh, Cosne-Cours-sur-Loire avec 286 kWh et le 6e arrondissement de Paris avec 285 kWh et enfin nous avons Héricourt avec 277 kWh par mètre carré par an. Toutes ces villes consomment plus de 100 kWh par mètre carré par an que la moyenne nationale, vous voyez, c'est assez considérable. Mais je voudrais quand même mettre un coup de projecteur sur la ville de Cugnaux en Haute-Garonne qui avait 80 kWh par mètre carré et par an et la commune qui consomme le moins en France, on peut dire ouais, bravo.
Effectivement. Michel, Nord-Sud, Est-Ouest, toutes les régions de France sont concernées de la même façon?
Eh bien écoutez Marc, une étude que nous avions réalisée en 2019 montrait que les performances énergétiques des logements tendaient à être moindres dans le nord de la France que dans le sud. Mais l'étude que nous avons récemment réalisée en 2021 montre une répartition plus hétérogène. Jugez plutôt, mon cher Marc, voici les cinq villes avec le plus fort taux de logements classés F. Alors nous avons Mende en Lozère, Cosne-Cours-sur-Loire dans la Nièvre, Chalette-sur-Loing dans le Loiret, Aniche dans le Nord, Verdun dans la Meuse. Toutes ces villes ont entre 20 et 30% de logements classés F.
Dites-moi, comment on peut expliquer cette sorte de fracture nord-sud?
Il y a quelque chose qui est évident. La différence de climat est en partie responsable d'une différence de consommation entre le nord et le sud. Pour autant, climatiser un logement consomme aussi de l'électricité. Mais vous avez d'autres critères qu'il faut prendre en compte. La date de construction des logements, leur isolation, leur exposition, leur superficie, leur type de chauffage. Car dans les types tels que Paris, où il y a un parc de logements anciens, voire très 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 anciens, et où les petites surfaces sont largement représentées, l'usage du radiateur électrique fait vite, vite, vite grimper la facture.
Corinne Joly, est-ce qu'on constate déjà une baisse des prix de ces passoires thermiques?
Un peu, mais ce n'est pas une baisse brutale, parce qu'en réalité, il faut quand même savoir qu'on n'a pas attendu le diagnostic de performance énergétique pour s'intéresser basiquement au coût de chauffage. Et en plus, en ce moment, le coût de l'énergie a plutôt tendance à augmenter, donc les passoires thermiques, leur principal problème, c'est surtout que ça coûte cher à chauffer. On a fait une étude l'année dernière sur PAP.fr, environ 35% des acheteurs disaient exclure totalement les passoires thermiques de leur recherche. Donc quand on vend une passoire thermique, ça reste vendable, il reste 65% des acheteurs, mais il y a quand même un peu moins de monde, donc ça peut entraîner une baisse des prix.
Corinne, si j'achète pour moi en résidence principale, je peux faire les travaux à mon rythme?
Alors oui, aucune loi ne peut vous empêcher d'habiter une passoire thermique. Non, il n'y a aucune loi évidemment qui peut vous empêcher d'habiter une passoire thermique. Michel l'a dit, on peut empêcher de louer, mais pas d'habiter. On ne va pas dire au propriétaire d'habiter dehors. Donc oui, vous pouvez faire les travaux à votre rythme, en tout cas en maison. Vous pouvez même ne pas les faire et porter des pulls. Mais il faut être conscient que votre bien risque d'être de plus en plus difficile à vendre. Maintenant, en appartement, ça va plutôt être au rythme de la copropriété, car si les travaux sont votés dans votre immeuble, vous devrez les faire même et même les payer, même si vous n'êtes pas d'accord. Ce sont les joies de la copropriété.
Dites-moi, j'ai une question qui peut être bête comme ça, mais est-ce que c'est aussi avantageux de rénover un F2 qu'une maison de 100 mètres carrés ?
Alors c'est très différent. En fait, quand on a un appartement, il y a moins de leviers de rénovation. En gros, c'est les fenêtres et les murs. Hein. Et surtout, il faut passer, comme je disais, par l'accord de la copropriété dans de nombreux cas. Et là, ça peut être long, d'autant que certains travaux, par exemple l'isolation par l'extérieur, ça ne peut pas être fait que chez vous. Tout l'immeuble doit le faire et donc tout l'immeuble doit le payer. Bon, le bon côté, c'est justement que les coûts sont mutualisés et que le syndic va prendre en charge une grosse partie du boulot, comme les audits, etc. En maison, vous avez plus de liberté et en général, il y a aussi plus de leviers. Par exemple, il y a la toiture qui est responsable de 30% des déperditions de chaleur. Mais là, vous devez vous occuper de tout et en général, ça coûte plus cher.
Et dites-moi, avec les aides à la rénovation, est-ce que c'est une bonne idée d'acheter un logement pour le rénover et ensuite le louer ? Est-ce que c'est vraiment rentable ?
Pas trop. Hein. Voilà, moi je pense que c'est pas un bon plan. D'abord, en investissement, on achète souvent des appartements et comme j'ai dit, les appartements, vous n'avez pas la garantie que vous pourrez faire les travaux de rénovation à cause de la copropriété, donc c'est risqué. Ensuite, que ce soit pour un appartement ou pour une maison, les travaux de rénovation, ça coûte quand même assez cher malgré les aides et ça ne vous permet pas de beaucoup monter le loyer. Mmh. Et enfin, il faut noter qu'il y a une incertitude sur les rénovations. Nous, on a quand même plusieurs retours de propriétaires qui ont fait des grosses rénos et qui ont gagné une, voire aucune lettre en classe énergie. Ouais. Donc en synthèse, les rénovations énergétiques, c'est pas les plus rentables. Je sais que tout le monde essaye de dire le contraire parce qu'on a besoin de convaincre un maximum de personnes de les faire. Mais voilà, la vérité, c'est qu'il faut plutôt voir ça comme un gain de confort plutôt que de se dire qu'on va gagner de l'argent avec ça. C'est quand même rare qu'on gagne de l'argent avec l'écologie.
Mais écoutez, en tout cas, merci à tous les deux. Restez avec nous, les amis. Exactement. Écoutez, l'écologie, c'est pas fait pour gagner de l'argent. À la limite, c'est fait pour faire en sorte qu'on soit pas tous ruinés dans 100 ans. Déjà, on verra ça. Si on n'a pas la tête sous l'eau, les amis, restez avec nous. On parle immobilier jusqu'à 10 heures. On parle immo, c'est votre rendez-vous 100% immobilier. On va se poser une autre question avec Corinne Joly dans un instant. Tiens, j'ai un peu d'argent, je veux le placer, je veux investir, j'achète un logement. Mais, il est déjà occupé, il y a un locataire. Est-ce que c'est une galère ou est-ce que c'est un bon plan? La réponse de Corinne Joly dans un instant. À tout de suite.
PAP, site immobilier de particulier à particulier, présente
Sud Radio, on parle immo.
Votre rendez-vous 100% immobilier sur Sud Radio. Vous cherchez à louer, vous cherchez à acheter, vous voulez investir, on vous répond avec Marc Ezrati et Corinne Joly, présidente de particulier à particulier, PAP.fr. Et aujourd'hui, tiens, on s'intéresse à l'achat d'un logement occupé. Galère ou bon plan, Marc ?
Alors Corinne, cette semaine, on pose la question de savoir, effectivement, comme Jean-Marie vient de le dire, si acheter un logement occupé par un locataire, c'est un bon plan ou une galère ?
Ah ben, vous savez bien ce que ça veut dire, vous avez vendu un logement occupé la semaine dernière.
Donc... Je le dirai à la fin.
Ok. Alors pour commencer, déjà on va rappeler ce que ça signifie acheter un logement occupé. Ça veut dire que vous achetez un logement avec un locataire dedans. Donc vous achetez le logement mais aussi son occupant. Enfin, vous, évidemment, vous n'achetez pas la personne, mais vous achetez quelque part le contrat de location et le fait que quelqu'un doit vous verser un loyer tous les mois. Alors vous allez me dire, c'est quoi l'intérêt de faire ça quand on peut tout simplement acheter un logement vide ?
Voilà. Justement, c'est quoi l'intérêt ?
Je vous aide un peu, je pose les questions. Alors en fait, il y en a deux. Le premier concerne tout le monde, c'est que ça va vous permettre, en général, d'acheter un bien un peu moins cher que les prix du marché parce que justement, c'est vu comme un inconvénient. Quand on achète un logement occupé, la présence du locataire fait que vous ne pouvez pas vous-même jouir du logement immédiatement et vous êtes engagé à reprendre le contrat de location de votre vendeur. Donc pour ces raisons, le logement, il y a une petite décote. Alors ça dépend un peu des quartiers, mais voilà, ça peut être quand même... Oui, ça peut être de 5 à 15% d'économie, donc ça peut être pas mal. Le deuxième intérêt, ça ne concerne pas tout le monde, mais dans certains cas, il est assez réel, c'est que si vous-même, vous voulez acheter un logement pour le mettre en location, pour investir, quoi, et ben là, vous n'avez pas à vous préoccuper de la recherche de locataires, vous n'avez pas à éplucher les dossiers des candidats, et vous avez même un aperçu de la fiabilité des paiements du locataire en place, parce que si ça fait 2 ans qu'il est là et qu'il paye ses loyers, ben, c'est bien, vous le savez déjà. Donc ça, c'est un avantage, parce que, par exemple, quand vous allez voir votre banquier, et ben, vous aurez des informations assez rassurantes à lui fournir.
Alors, vous avez avez parlé de décote sur les prix, hein, ça se chiffre à combien précisément ?
Alors, il n'y a pas de tarif officiel. La décote va dépendre du contrat du locataire et plus précisément de la date de la fin du contrat. En gros, plus la date sera lointaine, plus la décote sera importante puisque vous ne pourrez pas en bénéficier à titre personnel avant un petit bout de temps. Donc, si vraiment c'est dans longtemps, il y a à peu près, ouais, comme je disais, 15% d'économie. A contrario, si la fin du contrat, c'est dans 6 mois, bah, la décote sera plus faible. Ça sera une économie peut-être de 5%, voire un peu moins. Une petite précision, si en revanche, vous êtes dans une situation où il y a des impayés de loyer, alors là, c'est plus ou moins invendable.
Bon. Et inlouable, d'ailleurs.
Bon, là, on devine un peu ce que ceux qui nous écoutent ce matin sentent le filon et ils se disent « j'achète avec une décote et puis dès que je suis propriétaire, bah, zou,
voilà, je dégage le locataire en bravo.
Alors ça, c'est vraiment...
bel esprit.
C'est vraiment éthique. Hein.
Moi, de toute façon, au-delà de ne pas être éthique, c'est pas légal. Voilà, c'est pas possible parce que bah, vous achetez un contrat de location, donc vous êtes tenu par les engagements de ce contrat de location, et un contrat de location, quand on est propriétaire, ça ne se résilie pas quand on veut. Voilà, il y a quand même des règles.
Mais on peut quand même donner congé au locataire lorsque le bail arrive à échéance pour...
Eh ben, c'est un peu plus compliqué que ça. En tout cas, pour les locations vides, c'est la loi Allure qui a changé tout ça. C'est venu alourdir le processus. En fait, si vous achetez un logement occupé, vous ne pourrez pas donner congé pour vente pour la prochaine échéance, mais seulement pour l'échéance suivante. Ce qui signifie qu'il faudra attendre au minimum 3 ans pour donner congé pour vendre.
Alors, attendez, je comprends pas tout là. Ça veut dire que c'est 3 ans de plus de ce qui reste jusqu'au terme, c'est ça ?
Exactement. Alors, je rappelle qu'un contrat de location vide, ça dure 3 ans. Imaginons que l'échéance du contrat du logement que vous achetez soit dans 1 an. Eh bien, vous ne pourrez pas dégager le locataire, pour reprendre vos termes. Dans 1 an, il faudra attendre l'échéance d'après. Donc, ça vous fait quand même 4 ans. Donc, vous aurez mérité votre décote.
Et on rappelle d'ailleurs que la loi a un sens. Hein, parce que heureusement qu'on n'a pas créé un filon avec des gens qui achèteraient pas cher un logement occupé et dont le seul intérêt serait de dégager, comme vous le dites, le locataire qui pourtant paye son loyer juste pour pouvoir revendre le logement vide plus cher. Ce serait dommage.
Et est-ce que c'est le cas aussi si je veux revendre le bien pour l'occuper moi-même ?
Reprendre le bien pour l'occuper vous-même, oui. Parce que revendre le bien pour l'occuper vous-même, c'est pas une idée géniale. Alors non, c'est un tout petit peu moins long. On appelle ça, le terme technique, c'est le congé pour reprise personnelle. C'est l'expression. Et là, vous devrez attendre au moins 2 ans. Ce qu'il faut retenir, c'est que quelle que soit la situation, on ne peut pas demander au locataire de partir juste après avoir acheté, évidemment. Et comme disait... Jean-Marie, c'est quand même bien que la loi ait prévu ça.
Ouais, qu'on protège un peu les locataires, des millions de Français d'ailleurs qui sont concernés.
Bon, ça, là on vient de parler des locations vides, c'est différent pour les locations meublées ?
Oui, globalement, les locations meublées, c'est beaucoup plus simple sur cet aspect-là, puisque les contrats sont plus courts. Les contrats de location meublée, ils durent 1 an, alors que les contrats de location vide, comme je disais, ils durent 3 ans. Donc, en location meublée, l'échéance, elle est toujours beaucoup plus rapide. Et en plus, il n'y a pas l'obligation d'attendre l'échéance suivante. Donc, en location meublée, sous 1 an, vous pourrez toujours récupérer le logement.
Donc, en conclusion, acheter un bien occupé, bon plan ou galère ?
Eh ben, c'est un bon plan si c'est pour faire un investissement locatif, c'est-à-dire si vous voulez en gros garder le contrat de location du locataire, alors tant mieux. Et évidemment, c'est aussi si vous obtenez une bonne décote. En revanche, c'est une opération si vous voulez revendre ou occuper le logement. Bah, c'est pas idéal, il faut vraiment que vous ayez un coup de cœur pour prendre ça. Mais par contre, vraiment, si vous voulez investir, c'est très bien.
Je faisais un peu les calculs tout à l'heure, pour ce qui me concerne, parce que la semaine dernière, on avait parlé de l'appartement que j'avais vendu occupé. Ma décote était de 4%.
Alors que vous aviez une très bonne rentabilité, puisque si je me souviens bien, votre logement était rentable à 7%. Donc 7%, vous voyez, pour votre acheteur, il a acheté un bien avec une rentabilité de 7% et une décote de 4%. Donc c'est très intéressant pour lui.
Ouais, exactement. Merci Corinne pour ces conseils. On rappelle à ceux qui nous écoutent ce matin sur Sud Radio qu'ils peuvent bénéficier eux aussi de conseils en s'inscrivant gratuitement sur pap.fr, la plateforme immobilière sans commission. Tout de suite, le coup de cœur. Et aujourd'hui, on part à Poitiers retrouver Bruno Chevet. Il est consultant immobilier chez Foncière Transactions. Bonjour Bruno.
Bonjour Marc.
Vous avez un bien coup de cœur à nous présenter. On vous écoute.
Oui Marc. Alors je vous propose aujourd'hui un bien localisé à Neuville-de-Poitou, commune située à 15 km et 20 minutes environ de Poitiers. Il s'agit d'une jolie maison familiale construite en 2007, posée sur un beau terrain arboré de 1900 m². Proche de toute commodité, école, collège, commerce, Elle comprend 4 grandes chambres, dont 2 de plein pied, un bureau, une pièce de vie avec cheminée et insert, une cuisine aménagée et équipée, une véranda, plus salle de bain et salle d'eau, et 2 WC.
Il y a un terrain
sous-sol.
Ouais.
Alors, je termine juste de plusieurs dépendances, telles qu'un atelier attenant à un garage de 56 mètres carrés, chalet, serre, bref, des équipements et prestations de qualité.
Et le jardin ?
Et donc, disposant de plusieurs parcelles, 1900 mètres carrés de jardin arboré.
Ouais. 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 Le prix de ce bien ?
Eh bien, il est proposé au prix de 350 000 euros, frais d'agence inclus.
Merci beaucoup Bruno Chevet. On rappelle que vous êtes consultant immobilier chez Foncia Transactions à Poitiers. Les images de ce bien, on les retrouve comme d'habitude sur les réseaux sociaux de Sud Radio dès la fin de l'émission. On peut également appeler le standard Sud Radio 0826 300 300.
Absolument, vous nous laissez vos messages, on les écoute et on vous rappelle, ou en tout cas on vous répond toujours sur Sud Radio. Allez, tout de suite, place à Frédéric Fougera.
Sud Radio, on parle immo, les 48 secondes
avec Techway by Foncia, pour vivre dans un environnement sûr et sain.
Bonjour Frédéric Fougera, directeur de la communication du groupe Foncia. Frédéric, un syndic peut-il empêcher le versement du prix de la vente d'un bien immobilier au vendeur ?
Bonjour Marc, vous êtes vendeur de votre appartement et vous avez des dettes vis-à-vis de votre copropriété. Vous souhaitez donc savoir si votre syndic de copro peut s'opposer au versement de son paiement au moment de la vente. Un syndic de copropriété a la responsabilité juridique et financière de l'immeuble dont il assure la gestion. À ce titre, il bénéficie d'un droit d'opposition au versement du prix de vente d'un bien au vendeur quand celui-ci n'est pas à jour du paiement de ses charges. Lors de la vente d'un lot de copropriété, le propriétaire doit fournir au notaire un certificat émanant du syndic attestant qu'il est à jour du paiement de toutes ses obligations envers la copro. À défaut, le notaire donne au syndic un avis de mutation par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de 15 jours à compter du transfert de propriété. Une fois cet avis reçu par le syndic, celui-ci dispose aussi de 15 jours pour s'opposer, par acte d'huissier, au versement des fonds. En cas d'accord entre le syndic et le vendeur, le notaire versera les fonds au syndic afin de rembourser les dettes. En cas de désaccord et en l'absence de saisine des tribunaux par le vendeur, dans un délai de 3 mois après l'opposition du syndic, le notaire versera les sommes au syndicat des copropriétaires. Voilà Marc, il est important de comprendre que le syndic a la responsabilité d'entretenir et de valoriser votre patrimoine. Pardon. Il doit s'assurer que tous les copropriétaires sont à jour du paiement de leurs charges pour permettre le bon fonctionnement de l'immeuble, y compris lors de la vente d'un lot.
Merci Frédéric Fougera et à la semaine prochaine. On rappelle à ceux qui nous écoutent qu'ils peuvent revoir cette chronique sur la playlist Techway by Foncia sur la chaîne YouTube de Foncia.
Merci à tous. En tout cas, on vous retrouve la semaine prochaine, samedi prochain, Marc Ezrati.
Exactement.
Et Corinne Joly, présidente de Particulier à Particulier, PAP.fr. On parle de quoi la semaine prochaine, Marc ?
On parle du harcèlement des agences.
Le harcèlement des agences immobilières.
Vous savez qu'on achète en particulier, les agences parfois essayent de récupérer un mandat.
Ça peut être difficile. Justement, on va vous aider sur Sud Radio. Tous vos messages d'ailleurs au 0826 300 300. C'est la fin du Grand Matin Week-end, les amis. On vous souhaite une excellente journée. À l'écoute de Sud Radio à 11h, vous retrouverez Politique sous influence, Guillaume Bigot, Juliette Briens. Pas avec ma redevance. C'est un hashtag très partagé cette semaine qui critique le service public de l'information. Ils recevront son initiateur à partir de 11h, juste avant ça. On vous laisse entre les mains de Natacha Harry, vos animaux, comment aider votre chiot à bien grandir, quelle que soit sa race. Oui, effectivement, sa croissance, comment l'aider, que lui donner à manger ou quels exercices lui faire faire. Elle vous répond avec un vétérinaire juste après les informations de 10h.
Avec PAP, site immobilier de particulier à particulier.